Bonjour, je m'appelle Christian Robert, je suis animateur recherchiste pour L'Autre Montréal. C'est un OBNL qui fête 40 ans d'éducation à la ville cette année. Alors nous, on fait des circuits guidés, on forme différents groupes aux zones d'ombre dans l'histoire de la ville, à la marginalité, au développement urbain. Je suis aussi guide touristique de Montréal et créateur de circuits en histoire et patrimoine sur la ville de Montréal. Et j'ai d'ailleurs créé beaucoup de circuits dans le quartier que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, le Faubourg Saint-Laurent.
Chaque année, des promenades de Jane sont organisées à travers le monde par des citoyens et citoyennes passionnés par leur ville. Transportons-nous à Montréal pour écouter les coups de cœur et les souvenirs attachés à des quartiers où tant de secrets restent à découvrir. Voici la cinquième saison du Temps d'une marche.
Le Faubourg Saint-Laurent, c'est une appellation qui est peut-être pas très connue, mais en gros, ça serait à peu près de Bleury à Saint-Denis et du Vieux-Montréal jusqu'à la rue Ontario ou Sherbrooke. En gros, c'est le quartier chinois et le quartier des spectacles. C'est une vieille appellation qui date du 18e siècle. Alors, ces faubourgs-là, c'était ces agglomérations de part et d'autre des chemins qui menaient à la ville fortifiée. T'avais le Faubourg Québec à l'est, le Faubourg des Récollets à l'ouest, et t'avais surtout le Faubourg Saint-Laurent, qui devient le plus populeux au 18e siècle et qui va être très important dans l'histoire de la ville de Montréal. Le Faubourg Saint-Laurent, en fait, c'est le centre-ville est. C'est le centre-ville des francophones. C'est un lieu qui est extrêmement important dans l'histoire même québécoise. Hein. C'est vraiment national comme quartier. T'as des institutions super importantes, la Place des Arts, Hydro-Québec. On peut même parler du boulevard René-Lévesque, alors c'est un boulevard très important. C'est aussi un quartier qui est unique, je trouve, en Amérique du Nord. Souvent, les centres-villes sont pas très animés après 5 heures, et puis il y a pas vraiment de festival extérieur. Et c'est des centres-villes avec des grandes tours à bureaux, alors que dans le Faubourg Saint-Laurent ou le centre-ville Est, t'as du logement social avec les habitations Jeanne-Mance, t'as la rue de la Gauchetière qui nous ramène à ce vieux faubourg, des petites rues. Ça peut être calme, comme ça peut être très animé. Alors, c'est vraiment, en ce sens-là, un quartier qui est très unique. Moi, ma découverte de Montréal s'est faite par le Faubourg Saint-Laurent. J'ai des souvenirs, en fait, mes plus vieux souvenirs de la ville, c'est quand j'habitais encore en région, à Granby. Et on allait voir mon oncle à NDG souvent, mais on voyait juste l'autoroute. Et donc, la première fois qu'on est sorti du char, puis que j'ai vu la ville, que j'ai vécu la ville, c'était dans ce qui est aujourd'hui le quartier des spectacles. On connaissait pas cette appellation-là à l'époque. Et je me rappelle qu'il y avait des speakers, il y avait une scène, il y avait beaucoup d'espace, une grande esplanade. Je me rappelle que c'était une journée ensoleillée d'été. Il y avait bien du monde, il y avait des arbres. Et ça m'a vraiment marqué. Je repense souvent quand je suis dans ce quartier-là, à cette première image que j'ai eue de Montréal. Moi, le Faubourg Saint-Laurent, c'est un quartier que j'aime vraiment beaucoup, qui est au cœur de mon identité. Pourquoi je l'aime? Parce que j'aime ça me promener sur la rue de la Gauchetière le matin. C'est tellement calme. T'entends les oiseaux, tu sais. Dans quel centre-ville en Amérique du Nord t'entends les oiseaux? J'aime la ville, mais j'aime aussi la ville calme. Et ça, c'est assez unique à notre centre-ville est à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de ces centres-villes en Amérique du Nord où la densité n'est pas si grande. J'aime aussi ce quartier-là pour sa diversité. Je me rappelle justement les premières fois que j'ai vu de la diversité, c'était dans le Faubourg Saint-Laurent. Il y a le quartier chinois, mais il y a des gens qui viennent de partout sur la planète, qui convergent là et qui sont québécois. Moi qui viens d'un milieu plus francophone, ça a été vraiment mon contact vers une autre réalité qui est tout aussi québécoise. Et ça m'a fait comprendre qu'on peut être québécois de différentes façons. Et puis, dernièrement, c'est pour son architecture. Bon, on a beaucoup démoli, mais beaucoup moins que dans d'autres villes nord-américaines. C'est un quartier qui est peut-être moins composé de tours à bureaux. C'est un quartier où il y a les plus vieux théâtres au Canada. T'as le Monument National, le MTLUS. C'est tout des théâtres de la fin du 19e siècle. Donc, quand je marche là, je me sens dans ma culture. Il y a une culture québécoise. Elle est forte. Elle est beaucoup concentrée dans ce faubourg-là, dans cette vieille pierre. C'est rare qu'on ait de la vieille pierre autant en ville. Le premier arrêt que je vous présente aujourd'hui, c'est le secteur de la Place d'Armes. Surtout quand on sort pour aller vers la rue Saint-Urbain. C'est une drôle de sortie de métro, hein. Il y a beaucoup de béton, c'est sombre, et là, tu arrives sur Saint-Urbain et tu regardes à droite et tu as une vue mais magnifique sur le vieux Montréal. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce coin-là, c'est les édifices qu'on voit à gauche. Donc, quand vous regardez vers la basilique Notre-Dame, vous avez des vieux édifices un peu délabrés qui tiennent avec de la broche puis quelques échafaudages. Ces édifices-là sont vraiment importants. Pour moi, du moins, c'est notre rapport au patrimoine qui est démontré par l'état de délabrement de ces édifices-là. Faut savoir que la rue Saint-Antoine, qui s'appelait Craig, était la plus grande artère de la ville. On va l'aménager après la démolition des murs de fortification de Montréal, donc au début du 19e siècle, et on décide de faire cette grande artère-là pour aider le transport juste au nord de ce qui était le centre-ville à l'époque, donc le vieux Montréal. Cette artère va devenir une artère commerciale vraiment parmi les plus importantes de la ville. Et qu'est-ce qui nous en reste de cette ville-là? Plus grand-chose à part ces édifices-là. Il y a un projet d'agrandissement du Palais des Congrès qui s'en vient. Je sais que ces édifices-là vont tomber. Et moi, je vous jure, là, j'ai vraiment un attachement particulier à ces édifices-là, à ce que ça veut dire. Et à chaque fois que j'arrête dans ce coin-là, je prends le temps de les regarder parce que je sais que c'est peut-être la dernière fois que je les vois. Je suis un peu nostalgique. Moi, j'aime pas qu'on démolisse. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Je pense que si on le fait ailleurs, on pourrait le faire ici. On pourrait garder au moins l'enveloppe de ces bâtiments-là, peut-être rénover l'intérieur, mais peut-être les intégrer à un projet. Il faut savoir que ce coin-là était très animé à l'époque aussi de la rue Craig. Il y avait les tramways qui arrivaient, le terminus de tramway était tout à côté. Il y avait des gens qui venaient magasiner. Et jusqu'à très récemment, il y avait une fonction commerciale, vous vous rappelez, surtout ceux qui font de la musique, le Steve's Music, qui est vraiment un endroit mythique qui est rendu pas trop loin sur Sainte-Catherine-Est. C'est pas mal le dernier magasin là, qui restait jusqu'à, je pense, c'est 2017 quand ils ont déménagé. Mais il faut savoir que c'était un coin de rue où il y avait des tramways, donc c'était vraiment le centre-ville et aujourd'hui, c'est un peu mort. Alors, si ces édifices-là, qui sont un peu le dernier témoin de cette ville-là, tombent, ben c'est tout un pan de l'histoire de Montréal qui va aussi mourir avec ces édifices-là. On va retourner dans le Palais des Congrès, suivez-moi. On va prendre le grand escalier à notre droite et on va sortir à l'esplanade du Palais des Congrès, qui est aussi une porte d'entrée du quartier chinois, un endroit qui est calme, un endroit qui est souvent fleuri et qui est un de mes endroits où je me sens le mieux à Montréal. L'esplanade du Palais des Congrès est un endroit qui est absolument magnifique, surtout au mois de mai. Au mois de mai, vous avez ces pommetiers décoratifs, qui d'ailleurs est l'arbre emblème de Montréal, qui devient rose, fuchsia. C'est magnifique. C'est Claude Cormier qui est décédé l'an dernier, qui est un grand architecte paysagiste montréalais. Il a fait entre autres le Square Dorchester et cette esplanade. En passant, la pierre grise a beaucoup été utilisée pour le vieux Montréal et à Montréal en général. C'était une pierre locale. On parle souvent de la pierre grise de Montréal. Il l'a utilisée pour faire les sentiers de cette esplanade-là, et il a pris justement ces arbres emblèmes de Montréal. Et ma partie préférée de l'année, c'est vraiment le mois de mai, lorsque la ville est en fleurs. Il y a une éclosion de fleurs, c'est le temps des lilas, ça sent bon. Il y a une lumière très particulière, et on peut vraiment la sentir sur cette esplanade-là. On sort du Palais des Congrès, et là, on a cette lumière, la petite rue de la Gauchetière. T'as cet édifice qui est plus ancien encore que la basilique Notre-Dame à votre droite, que vous connaissez sans doute, l'ancienne manufacture Wings, qui vient d'être vendue. À gauche, vous avez une vieille église qui date des années 1830, le plus vieux lieu de culte de l'église chrétienne réformée à Montréal, une ancienne église écossaise qui est devenue avec les années, bon, différentes choses, et aujourd'hui, c'est la mission catholique chinoise qui est là. Vous avez cette petite rue de la Gauchetière qui va vers la droite. Alors, il y a vraiment une ambiance, on se sent pas dans un centre-ville. C'est un ancien faubourg. Et on le sent quand on marche sur de la Gauchetière, quand on sort de cette esplanade-là. On sent cette vieille petite rue qui a évolué avec les années, mais qui est restée quand même, qui a gardé son âme de petite rue de faubourg. Je vous laisse apprécier la rue de la Gauchetière. On va traverser le quartier chinois pour se rendre au boulevard Saint-Laurent. On se trouve maintenant devant la Grande Arche qui est cette entrée sud, si on peut dire, du quartier chinois. J'attire votre attention sur cet édifice très moderne du côté ouest de la rue. C'est un édifice qui est assez récent, qui en a remplacé un autre. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'édifice Robillard, ça vous dit peut-être quelque chose. On en a beaucoup parlé, malheureusement, lorsqu'il a pris feu, il y a quoi, 6-7 ans environ. C'est un édifice qui était extrêmement important pour l'histoire du cinéma en Amérique du Nord, parce que c'est là qu'il y a eu la première projection publique de cinéma. Le spectacle, là, on parle du quartier des spectacles, c'est une expression qui date du début des années 2000, mais le spectacle est ici depuis plus d'un siècle, en fait. Fin 19e siècle, on va se mettre à construire ces grands édifices que vous voyez encore. Si vous voyez des façades en pierre grise avec des grandes arcades, il y a de fortes chances que ces édifices-là, qui existent toujours dans le quartier chinois, aient été construits fin 19e siècle, un peu comme le Monument national. Donc, c'est tout à cette époque-là qu'on va faire ces édifices qui, souvent, abritaient au deuxième étage une salle de spectacle. Là, ça va être l'époque du vaudeville, du burlesque. Il va y avoir du burlesque en français aussi qui va arriver, entre autres dans les salles du Monument national, du théâtre en yiddish aussi, début 20e siècle, hein, puisque c'est un ancien quartier juif. Beaucoup de juifs d'Europe de l'Est quittaient à l'époque pour venir s'établir à New York, à Montréal. Et c'est ici qu'ils sont arrivés et qui ont développé leur culture avec des gens qui venaient de New York. Ensuite, il va y avoir les premiers nightclubs, les premiers cabarets francophones aussi. C'est important de le dire que Montréal a été une ville où le spectacle se faisait souvent en anglais. Et là, où il y a au nord de Sainte-Catherine, du côté est, vous avez l'Armée du Salut, ça vous dit sûrement quelque chose. Ça a été plusieurs choses. Entre autres, ça a été le Faisan Doré à la fin des années 40. Ça n'a pas duré longtemps, mais tous les grands chansonniers québécois et francophones sont venus s'y produire et ça a été un lieu d'expérimentation pour le cabaret francophone. Et ça, c'est important dans l'histoire de notre culture. Je vous amène maintenant dans une oasis de verdure en plein milieu du centre-ville, les habitations Jeanne-Mance. Je vous ai pas amené n'importe où aux habitations Jeanne-Mance, on est dans le verger. C'est un peu pour moi le symbole de ce renouveau. On connaît l'histoire, hein? C'était un quartier, le quartier du vice, de la prostitution, de la mafia, mais c'était aussi un quartier populaire qui, oui, avait mal vieilli. Et dans les années 50, alors qu'on a une grande réflexion sur la rénovation de certains vieux quartiers de la ville, on va décider de carrément démolir tout un secteur de la ville. On pense à Radio-Canada, on pense à Goose Village. C'est vraiment le premier secteur de la ville qui va être démoli complètement. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, la sensibilité au patrimoine plus modeste fait en sorte qu'on démolirait plus jamais tout un pan de la ville. Au moins, on a fait du logement social. C'est très rare qu'on ait des grands ensembles de logement social en plein centre-ville. C'est des terrains qui valent cher. Et pour moi, c'est un peu un symbole de ce qu'on pourrait appeler la solidarité québécoise, le modèle québécois. Je pense que Montréal a été longtemps une ville de pauvreté. C'était une ville industrielle avec plein de quartiers populaires. Et que dans les années 50-60, il y avait des conditions de vie qui n'avaient plus de bon sens. Et l'État a décidé d'investir dans les conditions de vie des gens et de créer des programmes comme ça de logement social. Et ça, c'est vraiment le premier grand projet de logement social au Québec. Mais c'est aussi le premier grand projet social des années 50-60, au tout début de la Révolution tranquille. Ce que j'aime du secteur des habitations Jeanne-Mance, c'est le fait que c'est inclusif. C'est le fait aussi qu'on a voulu verdir le secteur. Donc, c'est un endroit où on se sent bien. Mes petits oiseaux qui chantaient sur de la gauchetière sont revenus me retrouver ici. C'est aussi un endroit où il y a plein de murales. Les gens connaissent en fait beaucoup les habitations Jeanne-Mance par les murales. Ça, c'est une initiative de l'organisme MU qui, jusqu'à tout récemment du moins, avait leur local sur de Maisonneuve dans un des logements des habitations Jeanne-Mance. Eux, c'est vraiment intéressant. Par la murale, ils vont embellir des quartiers, mais aussi ensuite faire des projets où ils vont demander à des résidents du secteur, des résidents des habitations Jeanne-Mance à participer pour qu'eux-mêmes embellissent leur secteur et ainsi se l'approprient. Alors en anglais, on parle d'empowerment. C'est vraiment intéressant leur démarche. Ils font ça partout en ville. Allez sur leur site internet, vous allez trouver la murale MU la plus proche et vous pouvez aussi aller aux habitations Jeanne-Mance, prendre le temps de voir les 8 grandes murales et aussi tous les projets citoyens qui ont été faits autour de ces murales-là. On va aller maintenant au dernier arrêt, la place des Arts. Je vous invite à ne pas manger les fruits du verger. Non, je fais des blagues. C'est intéressant, ça a été fait pour les enfants, ce verger. Donc, on va se diriger par de Maisonneuve pour se rendre à l'esplanade de la place des Arts. La place des Arts, c'est tellement important dans l'histoire du Québec. C'est une place qui, aujourd'hui, appartient à tout le monde. Ça n'a pas toujours été le cas, moi. Mon anecdote que j'adore sur la place des Arts, que j'ai appris dans les dernières années, c'est que ça a été très controversé, son inauguration. L'UDA et un autre syndicat américain se battaient un peu sur la place publique, à savoir qui allait défendre les intérêts des artistes qui allaient se produire là. J'ai appris aussi récemment, en lisant les journaux de l'époque, que ça a duré pas mal de mois, cette saga-là. Il y avait des journalistes qui appelaient au secrétariat de la Place des Arts et c'était une secrétaire unilingue anglophone qui répondait « Welcome to Place des Arts ». C'est le début du nationalisme francophone. C'est aussi le début d'un désir de s'affirmer en tant que francophone nord-américain québécois. On n'est plus des Français d'Amérique, on est des Québécois. Et c'est très différent. Hein? On est au tout début de Charlebois, tout ça. Là. Alors, cette salle-là aussi était liée à une élite, pas juste anglophone, mais quand même une élite. Beaucoup liée, il faut le dire, au maire-drapeau de l'époque. Alors, il y avait ce ressentiment chez certains groupes nationalistes de gauche. Et d'ailleurs, quand il y a l'inauguration en 1963, c'est presque l'émeute à l'extérieur. Alors, t'as des policiers à cheval qui vont chasser des groupes nationalistes de gauche, des syndicats. Et lorsqu'on construit la Place des Arts, il y a cette idée de faire un axe historique canadien-français entre la Place des Arts et la Basilique Notre-Dame. À l'époque, on a pensé la verrière du piano nobilé, donc quand on est juste avant de rentrer dans la salle, pour qu'on puisse voir au loin la Basilique Notre-Dame. Pensez à Paris, ses grands boulevards, et au bout, vous avez toujours ces monuments repères. Alors, c'était un peu ça l'idée. Bon, avec les années, il y a eu, entre autres, Guy Favreau qui est venu vraiment cacher la Basilique Notre-Dame, mais cette idée de l'axe historique est quand même restée. Et en face, il y a quand même le complexe Desjardins. On l'oublie, mais ça a été important dans les années 60 que le centre-ville francophone ait aussi son gratte-ciel, sa place Ville-Marie. Desjardins, quel symbole clair et précis de la réussite des francophones. Alors, pour moi, c'est important aussi. Moi, j'aurais comme projet personnel un grand rêve pour la bonne vieille Maine de Montréal. Quand on marche dans la côte entre Ontario et Sherbrooke, les édifices font un peu pitié. C'est triste parce que c'était vraiment de superbes façades, beaucoup construites justement au 19e siècle. Mon grand rêve, c'est qu'il y ait plein de jeunes entrepreneurs, de gens qui ont le patrimoine à cœur et qui réinvestissent ce secteur-là de la Maine. Entre Sainte-Catherine et Sherbrooke, là, c'est vraiment un secteur. Ça me fait un peu le cœur de voir ce que c'est devenu. Et on n'a pas besoin de tours à condos, quant à moi. On a besoin de rénover ces édifices-là, mais surtout de ramener de la vie dans ce secteur-là de la bonne vieille Maine. Je trouve que c'est vraiment important de célébrer le patrimoine, d'en parler, de faire de plus en plus de visites, de vidéos. Il faut parler de notre patrimoine. On a la chance à Montréal d'être une ville, comme je le disais, où on n'a pas tout démoli, ce qui est rare en Amérique du Nord. Et le patrimoine ne nous dit rien. On repense à ces édifices de l'ancienne rue Craig dont je vous parlais au début. Il ne nous dit rien si on ne sait pas ça réfère à quoi et ça veut dire quoi sur nous. Et justement, le patrimoine, c'est unique à chaque ville. C'est du vernaculaire. Il n'y a pas un patrimoine semblable à Toronto, à New York, à Chicago. C'est vraiment notre patrimoine à nous. Et une culture qui perd son patrimoine, c'est une culture qui se meurt.
Merci à Christian Robert pour son témoignage. Ce balado est une production du Centre d'écologie urbaine. Réalisation et conception sonore, Phonique.